Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. On va vous présenter aujourd'hui une émission qu'on a un peu orientée climat, environnement, perturbation. Partez pas, restez là, ça va bien aller, vous allez voir, ça va être 2 heures de fun total. Pourquoi? Parce que déjà en première heure, on a Dominique Champagne avec nous, puis c'est jamais plate quand il est là. On a également Jean-Sébastien Trudel. Pareil, merci d'être là Jean-Sébastien.
Merci.
Je voulais qu'on revienne sur cette initiative qui a été lancée par toute la gang du Pacte pour la transition énergétique, écologique, qui a été lancée lundi. Vous savez qu'il y a près de 300 000 Québécois, peut-être vous en êtes, j'en suis. Je me suis même engagée, moi, à vous en parler régulièrement, à moins une fois par semaine. Fait que ça tombe aujourd'hui, mais la semaine est jeune, ça se peut que je vous en parle vendredi. Toujours est-il que Dominique a lancé avec son groupe lundi 101 idées, donc, pour le climat. Et c'est un grand appel, Dominique Champagne, à ce que les Québécois viennent à leur tour proposer d'autres solutions. Et c'est dans un contexte, j'avais envie d'ouvrir la discussion là-dessus ce matin sur, oui, on a tous des idées de ce qu'on peut faire. En même temps, on a comme une écœurantite là, qui commence à se sentir, qui est assez palpable, de gens qui disent, mais moi, je veux bien, là, mais la culpabilité, plus capable. Comment dire aux gens, faisons notre bout, mais en même temps, il ne faut pas se sentir mal là-dedans. Comment tu vois toute cette grande discussion-là, si je vous parle là-dessus?
Moi, ce que je constate, c'est que d'une part, depuis 6 mois, depuis, disons, le dernier rapport du GIEC, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle, mais depuis la sortie du rapport des experts sur le climat en octobre dernier, là, il y a eu un grand sentiment d'urgence. Hein? On a dit, OK, il y a une urgence climatique, il y a l'urgence d'agir, de réagir, de répondre à cette urgence-là. Et la mobilisation citoyenne a pris beaucoup de place dans les médias. Je pense que ça s'est imposé dans l'agenda politique. On voit, par exemple, où était la CAQ le 1er octobre avec, pour ainsi dire, pas rien au programme par rapport à l'environnement ou au climat. Et on voit les prises de position et du parti et du premier ministre. Donc, il y a une évolution du côté de la prise de conscience, je dirais, de l'urgence d'agir. En même temps, on a toute envie là, que quelque chose se passe. Pas juste de dire, OK, ça va mal, ça va mal, ça va mal, on s'en va dans un mur. Alors, moi, je sors d'une tournée de plusieurs mois, je me suis rendu partout au Québec. Les gens disent « qu'est-ce qu'on peut faire? » Et il y a du monde, il y a des entrepreneurs, il y a des citoyens, il y a des organismes communautaires qui sont en mode solution. Il y a un paquet de solutions extrêmement positives à plusieurs égards, dans plusieurs domaines, en transport, en alimentation, en consommation, en agriculture. En industrie, il y a des gens qui disent « OK, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et voici ma proposition. » Alors là, on a décidé au PAC de faire une espèce de répertoire. On est passé le râteau là, partout où il y a des solutions. On a essayé de mettre des priorités parce que composter, c'est bien. Sortir des pailles de plastique, c'est bien. Mais si on veut atteindre les objectifs que la science nous donne là, pour 2030 de réduire de moitié nos gaz à effet de serre, il faut prendre le taureau par les cornes. Puis il y a des priorités plus importantes que d'autres. Alors, on a donc fait une espèce d'exercice de dire quelles sont, d'après nous, les 10 grandes priorités. On a mis ça en ligne sur le site du pacte, lepacte.ca. Il y a plus que 2000 personnes depuis lundi là, qui participent à la consultation. Donc, c'est extraordinaire parce que je pense que le gouvernement, malgré ses bonnes intentions, il n'y arrivera pas tout seul. François Legault, il n'y arrivera pas tout seul. Justin Trudeau, on voit à quel point là, il a essayé d'être à la fois champion du climat puis pro-pétrole puis à quel point il y a des difficultés. Je pense que la volonté politique ira jamais aussi loin que la volonté populaire qui peut s'exprimer. Et il y a un paquet d'hommes et de femmes de bonne volonté qui ont envie de dire « voici ce qu'on peut faire ». Au-delà des gestes individuels, il y a des gestes collectifs dans les écoles, les entreprises, les établissements, les municipalités. Donc là, on dit aux gens, jusqu'au 1er octobre, allez sur le site du pacte, réagissez à nos propositions, améliorez-les, proposez vos propres solutions, qu'on soit donc en mode solution pendant quelques mois. Puis à l'automne, on va faire, nous, une synthèse avec un comité scientifique présidé par Laure Varidel, des gens qui ont envie qui ont une tête sur les épaules puis qui ont envie de contribuer au plan d'action. Le gouvernement nous a promis, pour le début de 2020, un plan d'action rigoureux. Espérons-le. François Legault a dit « Moi, je suis un gars de résultats. » Donc, on dit qu'on le fait, puis on va le faire. Et il s'est commis notamment à dire « On va réduire au Québec de 40 % l'utilisation du pétrole d'ici 2030. » C'est un bel objectif. Mais c'est pas fait. Ça prend un. C'est quoi le plan maintenant? Le plan.
Oui, puis on nous l'avait déjà dit avant. Là.
Exact. Les libéraux nous l'avaient dit.
Sincèrement. Je sais que toi, tu étais très content, Dominique.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a un temps.
De ce qui a été annoncé la semaine dernière, mais on s'entend qu'il n'y avait rien de nouveau.
Il n'y avait rien de nouveau. Absolument, tu as raison.
T'es quasiment devenu membre de la CAQ pour rien.
Je suis devenu membre de la CAQ. Non, pas pour rien. Je pense qu'il faut continuer de souffler dans la voile en homme de bonne volonté. En même temps, c'est-à-dire, moi, je dis, il y a un temps pour critiquer, il y a un temps pour japper, puis il y a un temps pour souffler dans la voile. François Legault s'oppose en pragmatique, qui parle d'urgence pragmatique. Alors, on va le prendre au mot. C'est quoi le plan maintenant? et on dit « Monsieur Legault, on est avec vous. On est en mode solution puis on va vous aider. » Parce que c'est pas vrai qu'il va y arriver tout seul. Ça prend un effort national.
C'est loin d'être simple. C'est loin d'être
absolument,
simple.
Absolument.
On va revenir sur plein de
c'est
choses.
C'est un grand défi.
Oui. Jean-Sébastien Trudel a écrit plusieurs livres. « Le développement durable n'est pas une mode. »« Le grand mensonge vert, un guide pour acheter moins idiot. »« Arrêtons de pisser dans l'eau embouteillée. » Tu as plein de titres accrocheurs, Jean-Sébastien.
C'est mes éditeurs.
Oui, c'est bon. T'aimes plutôt l'initiative du PAC. Je veux dire, on peut pas être contre ça non plus.
Hein? Non, mais ce que je trouve brillant dans ce qu'il fait, c'est justement la priorisation. Moi, c'est un cheval de bataille que je mène depuis des années. Parce que oui, on en a parlé, toi et moi, c'est les sacs de plastique. Ouais. Je veux dire, il y a des choses qui viennent nous chercher émotivement, mais qui, à la fin de la journée, c'est pas ça qui va réellement permettre d'atteindre les objectifs. Tu sais, j'avais fait une étude sur qu'est-ce qui est mieux entre un sapin de Noël artificiel versus un sapin naturel. Et la conclusion, à la fin, c'est de dire, arrêtez la culpabilité, prenez le sapin que vous voulez parce que vous avez juste à prendre votre vélo quelques jours dans l'année puis vous allez compenser largement les impacts. Passez un bon temps des fêtes, amusez-vous en famille, ça c'est important, ces valeurs-là. Mais de l'autre côté, si vous voulez vraiment agir, là, c'est ailleurs qu'on peut le faire de manière beaucoup plus importante.
Ouais.
Le transport, ça en est un bon exemple, je pense.
En même temps, bon, toi, tu as un enfant de 11 ans.
Exact.
Toi aussi, tu as des enfants, de
J'ai trois fils, oui. Mon bébé a 22 ans.
Oui. Donc, ça ne te rajeunit pas, mon ami. On a tous des enfants. Moi, ma dernière est une ado de 16 ans. Ce sont des consommateurs aussi. On l'est tous, consommateurs. C'est devenu un état. T'es citoyen consommateur. Donc, comment vous pensez qu'on peut arriver? Parce que la consommation, ça pollue. Je veux dire, on n'a pas le choix. Là. Il y a un regard à poser sur notre type de consommation.
Ben, moi, je peux dire, puisque tu me mets le POC sur la palette...
Qu'est-ce que tu fais, Dominique Champagne?
Moi, je suis extrêmement fier de mes trois garçons. Qui sont beaucoup plus sobres que leur père. Ils sont beaucoup moins consommateurs, beaucoup moins tentés par la consommation, par la performance. Et je pense que, moi, j'y vois là un des grands progrès. Là. Je suis vraiment ému de voir que mes fils, naturellement, sont probablement en réaction. Moi, j'étais un gros producteur, j'étais un créateur, puis j'étais un consommateur. Et j'ai été dans la performance toute ma vie, puis je veux pas dire que j'essaie de me guérir de ça, mais je vois bien que... T'sais, au-delà des émissions de gaz à effet de serre qui sont un problème important, je pense que le problème fondamental, c'est qu'on extrait trop de ressources, on produit trop de biens, on consomme trop et on jette trop une trop grande partie de ce qu'on consomme. Je pense que ça, c'est le problème fondamental. C'est un système économique qui a extrêmement bien fonctionné depuis des siècles, qui a été accéléré depuis la découverte du pétrole et du gaz. C'est des énergies qui nous ont rendu beaucoup plus puissants, rapides. Mais là... La science nous dit que ça ne peut plus continuer comme ça. La nature nous parle assez clairement, de plus en plus clairement. La jeunesse est inquiète d'avoir un avenir viable. Alors, il faut chacun, je pense, faire notre examen de conscience, mais en même temps, ne pas se culpabiliser parce qu'effectivement, la somme de nos gestes individuels ne suffira pas. Ça prend des grandes politiques publiques. Alors, il faut trouver cette espèce d'équilibre-là vers un mieux-être. Hein? Moi, Jules, mon fils, est avocat. Et aujourd'hui, ça fait quatre semaines qu'il est parti marcher dans les forêts, dans les montagnes du Vermont, avec un sac à dos extrêmement léger. Il n'y a pas de tente, il n'a pas apporté de linge, il y a un petit poêle au gaz. Et mon Dieu, je dis, il est avocat, il pourrait être en train de performer, en train de servir. Et il a décidé de prendre un temps comme ça pour aller...
Dans la nature, c'est
dans
ça?
La nature, en harmonie avec la nature.
C'est
alors,
ressourcé.
Je me dis que le contrepoids à beaucoup de production, beaucoup de consommation, c'est une meilleure fréquentation de la nature, une meilleure fréquentation de la culture, de la vie de l'esprit. Il y a beaucoup de
Mais
gestes.
Là, la nature nous parle en ce moment.
Elle nous parle, mais si on est plus à l'écoute, moi, je suis persuadé que ceux qui fréquentent la nature sont beaucoup plus sensibles, justement, à ce qui se passe présentement que ceux qui vivent en marge de la nature. Il y a du monde pour qui un poulet, là, c'est quelque chose d'emballé dans du cellophane, alors qu'il y a des gens pour qui un poulet, c'est un animal qui vit quelque part, qui mérite d'être nourri, d'être traité convenablement. Donc, retrouver une meilleure harmonie dans notre relation avec la nature, je pense que c'est le grand défi de notre époque. Et on s'est posé
en maître
de la nature.
Ce que tu décris, c'est notre déconnexion, en fait.
On
n'a jamais été aussi connectés technologiquement, mais on est déconnectés quasiment de notre essence
Absolument.
D'humain. Là, ça a l'air ésotérique de parler comme ça, mais c'est ça un peu, finalement.
Il y a une rupture. T'sais, depuis Descartes, là, quand la raison a décidé de prendre le pas sur la nature, on s'est distingué de la nature, on s'est dit, nous, on va se mettre à étudier la nature, savoir comment on peut maîtriser la chose. Et on a fait de grandes choses. On a fait de grandes maîtrises. Mais par ailleurs, cette maîtrise-là nous mène à un point aujourd'hui où ces façons de faire-là dégradent le monde dans lequel on vit plutôt que l'améliorent. Alors, je pense que, au fond, le carrefour, moi, quand je résume ça à des choses simples, je me dis, est-ce que les gestes qu'on pose présentement ou chaque jour dégradent, vont dans le sens de la dégradation du monde dans lequel on vit ou bien dans le sens d'un avenir viable? Et on devrait essayer de prendre nos décisions individuelles et collectives à l'aune de cette mesure-là, c'est-à-dire dégrader le monde ou bien éviter
mais
le
c'est
pire.
Là où arrive la grande difficulté. Il y a un article de Mario Dumont dans le Journal de Montréal ce matin, je pense que vous avez eu l'occasion de le lire, où il parle entre autres de la Caisse de dépôt et des décisions de la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt qui donc gère notre bas de laine de Québécois, on le sait. Il rappelle d'ailleurs qu'à peu près 10 % de chaque chèque de paye qu'on nous verse, il y a ce montant-là qui parle qui est géré en cotisation par la Caisse. Donc, est-ce qu'elle devrait se retirer? Il pose la question, la Caisse de dépôt doit-elle se retirer des secteurs comme les hydrocarbures au nom de principes moraux, quitte à sacrifier des rendements? Sa position d'économiste, à Mario, de droite quand même, c'est de dire, ben là, un instant, là, faut pas virer fou. C'est ça la difficulté. Et François Legault, il est prêt avec ça. Il y a le troisième lien à Québec, puis en même temps, il dit on va vendre l'électricité propre aux Américains, puis on va faire une société encore plus. C'est comme Hydro-Québec 3.0, là. Il y a quelque chose de
Moi, je lui donne ça à Mario Dumont, c'est-à-dire qu'il faut effectivement...
Un gros bon sens.
Oui, mais tu sais, il y a la pensée magique de croire que demain matin, on pourrait enlever toutes les voitures, c'est pas possible, ça marchera pas comme ça. Par contre, je pense qu'il est temps puis qu'on s'arrête puis qu'on regarde, OK, on peut continuer à utiliser des hydrocarbures, par exemple. Comment est-ce qu'on va faire la transition? Cette question-là, on se la pose pas. Mais si demain matin, on se posait réellement la question puis on se disait, bon, ben si on veut, par exemple, convertir l'ensemble de la flotte de véhicules qui roulent actuellement en véhicules qui consomment moins ou avec des énergies alternatives, ben ça va nous prendre des énergies pour faire ça. Comment on le fait? Combien on en a besoin? Combien de temps ça va le faire si on veut le faire de manière optimale?
Ouais.
C'est pas les questions qu'on se pose, mais on devrait. Puis les outils financiers, je pense que ce sont des bons moteurs, mais encore là, on peut se poser la question, est-ce qu'on fait juste dire, ben moi, j'investis pas là-dedans, comme si ça n'existait pas, ou au contraire, est-ce qu'on peut pas, comme Baudelaine de Québécois, dire, on va prendre une position dans ces entreprises-là pour les influencer positivement à réfléchir à ce genre de questions-là. Et moi, je pense qu'on a un plus grand rôle en participant à la discussion, c'est ce que tu fais, Dominique, qu'en disant, ben non, on va s'en éloigner puis on fera semblant que ça n'existe pas.
Par ailleurs, moi, je pense que c'est important de rappeler que les experts sur le climat, il y a 6 mois, dans leur grand rapport, nous disent essentiellement la grande conclusion, là, où ils se permettent de sortir de leur devoir de réserve pour nous dire il faut rapidement et radicalement opérer des changements, sous peine de quoi, là, d'ici 2030, sous peine de quoi les catastrophes vont être importantes. Okay? Alors là, je passe souvent pour un hystérique quand je le dis, là, j'essaie de garder un ton posé. Aujourd'hui, la raison scientifique nous dit il faut réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre qui sont principalement liées à l'usage du gaz et du pétrole dans notre réalité.
C'est ça le numéro.
Alors, d'une part, la raison scientifique nous dit ça. Et d'autre part, le discours dominant nous dit la voie de notre croissance et de notre prospérité, c'est de l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors là, on a des choix à faire. Et aujourd'hui, il y a des intérêts extrêmement puissants à qui profitent beaucoup à la fin du trimestre, à la fin de l'année, l'exploitation indue de ces ressources-là. Et c'est eux qui runnent la business. On voit, là, Justin Trudeau s'est porté au pouvoir sur la promesse de cesser de subventionner l'industrie pétrolière en disant on va investir dans les infrastructures de la transition, on va investir pour se sortir de cette dégradation du monde dans lequel on vit par le pétrole et par le gaz. Et il n'y arrive pas en fin de mandat. Et là, il va avoir de la difficulté à se présenter à la prochaine élection parce qu'il s'est lui-même discrédité sous l'influence de ce lobby-là. Alors, moi, j'ai fait l'exercice... Moi, je l'ai fait l'exercice d'aller voir là, avec mon comptable, celui qui s'occupait de mes placements personnels pour mon fonds de retraite. On est-tu capable de sortir le pétrole et le gaz? Et ça a pris 3 ans de travail. Je l'ai fait.
Mais t'as des fonds
parce
écologiques.
Parce qu'il y en a partout. Ouais, ça veut dire qu'aussitôt qu'on est dans des... On vit dans un monde qui est complètement... on est complètement intoxiqué au pétrole. Du pétrole, il y en a partout. On en porte, on en mange, on en brûle quand on se transporte. Là, la raison nous dit il faut s'éloigner. Et ça prend des mesures. Comme tu le dis, là, ce que ça prend, c'est un plan. un plan crédible, rigoureux, dans lequel on va croire. Et ce plan-là, il doit être enligné vers une nécessaire réduction, au moins de moitié,
ouais, des émissions. Mais en même temps, le Québec, ce n'est pas une planète là, en elle-même. On vit sur le même territoire, puis c'est tout un jeu de négociation.
Absolument. Sauf qu'au Québec, on a de l'énergie propre à en revendre. Ouais. Tu sais, quand la ville de New York décide de devenir carboneutre, ils pognent le téléphone, ils appellent la gang d'irréductibles en haut de la carte, là, qui ont de la potion magique plein les poches. Mm. Venez nous aider, vous avez des ressources en énergie propre. Et François Legault arrive en courant.
Alors, explique-moi comment ça se fait. Moi, j'en parle à peu près, je deviens fatigante avec ça. Puis je travaille pas du tout, j'ai personne qui a des serres, qui aimerait en partir et tout. Mais je veux manger des légumes locaux, idéalement. Mm. J'étais écœurée d'acheter des produits qui viennent de loin, qui ont voyagé, qui ont changé de couleur, qui s'est rendu qu'ils cueillent vert pour qu'ils arrivent rouge. Tu te demandes ce qu'ils font avec. Qui n'ont pas de goût, qui ne se gardent pas 48 heures dans notre frigo, qu'on paye deux fois le prix, qui n'apportent aucune valeur ajoutée ici, localement. Comment ça se fait si on a cet or vert donc, que tu décris, d'électroélectricité? Comment ça se fait qu'on n'a pas des serres au Québec qui font pousser nos propres légumes?
Ça commence.
Il y en a un peu.
Mais ça commence. Et je pense qu'il faut souffler dans cette voie-là. Il y a beaucoup de jeunes... Particulièrement, il y a beaucoup de gens dans le monde agricole qui s'orientent vers des nouvelles pratiques.
Écoute, pour qu'une compagnie qui faisait des tomates en serre ait décidé d'abandonner pour faire du cannabis, tu vas me dire, oui, mais peut-être qu'ils ont calculé que ça allait être plus payant. Peut-être, mais pourquoi faire de la tomate, c'est pas payant? Tu comprends?
C'est sûr.
C'est ça la question aussi.
Sûr qu'on arrive à faire travailler ailleurs des gens qui sont moins bien payés, dans des moins bonnes conditions, en utilisant beaucoup d'engrais chimiques, de pétrochimie. Et on arrive à avoir des fruits ou des légumes ici moins chers au bout du compte. Donc, il y a des mesures importantes. Comment soutenir cette émergence d'une... Parce que là, les techniques existent, la volonté est là, il y a un désir, mais il faut soutenir cette agriculture-là, par exemple. Alors, tu sais, il y a des politiques publiques importantes, là. Cessons de subventionner l'industrie du pétrole et subventionnons tout ce qui veut émerger pour nous en éloigner, qui va améliorer la qualité de ce qu'on mange, qui va améliorer notre santé, qui
il
va améliorer
notre façon...
Il nous reste
4 % de terres arables au Québec.
Ah oui.
4 % On a tout planté de l'asphalte partout. Ouais, c'est un méchant problème.
Mais tu sais, si on parle de la question...
Et tout est lié, là.
La question de l'énergie, on a vraiment une occasion en or actuellement d'être la Silicon Valley du Nord de l'économie verte. On a justement cette ressource-là extraordinaire.
Ça fait 10 ans qu'on
dit ça, Jean-Sébastien. Mais justement, profitons-en. Tu sais, en même temps, là, ce problème-là, il disparaîtra pas. Fait, à quand? T'sais, est-ce qu'on attend encore un autre 10 ans pour pouvoir faire ce changement-là? Mais réalistiquement parlant, on a des actifs que d'autres n'ont pas autour de nous. Puis présentement, on vend cette électricité-là qui est différente des autres, qui a une valeur ajoutée extraordinaire. Mais on la vend au prix du bœuf haché alors que c'est du filet mignon, notre affaire. Là. Sans jeu de mots douteux. Là, mais,
moi, je te conseille de manger moins de viande
quand
même. On va aller à la pause là-dessus. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais écoutez, on a encore 40 minutes pour discuter de ce sujet-là. Puis je vous disais tout à l'heure d'entrée de jeu qu'on avait une émission un peu environnementale. Là, on parle d'Hydro-Québec, d'hydroélectricité. Ça m'a fait penser aux compteurs intelligents qui sont beaucoup décriés en ce moment parce qu'ils émettent toutes sortes d'ondes. En deuxième heure d'émission, je vous le dis tout de suite, restez là, on va parler d'électrosensibilité. Les fameuses lumières DEL ou LED sont LED, sont au DEL. C'est épouvantable, cette affaire-là, sincèrement. On se rend pas compte. T'sais, on est là à essayer de manger mieux pour éviter le cancer, de pas avaler des pesticides, puis ils nous mettent des compteurs intelligents qui nous rendent malades. On va parler de ça en deuxième heure d'émission. J'ai un cas épouvantable d'une famille qui subit d'ailleurs cette pollution-là. Et les municipalités veulent rien savoir parce qu'on comprend pas comment ça marche. Tu comprends? C'est ça. Alors, on va revenir avec vos commentaires sur le pacte. Est-ce que vous avez des idées, vous, pour essayer de sauver un peu notre planète? Dit comme ça, ça fait un peu genre, t'as veille de mourir. Mon Dieu, qu'on n'aime pas ça, parler comme ça. C'est vrai que ça nous rend un peu tous éco-anxieux, mais je trouve qu'il faut avoir un ton positif. Je trouve qu'on l'a ce matin.
Absolument.
Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. On vous donne la parole tout de suite après. 514-790-9850. À tout de suite.
Que la nature nous confonde, juste un petit geste pour changer. Ah, que la terre nous a donné.
Bonne toune des respectables qui dit exactement ce qu'on pense finalement nous ce matin. Je vous rappelle, je suis en compagnie de Jean-Sébastien Trudel qui est auteur environnementaliste et Dominique Champagne, bien sûr, metteur en scène, cofondateur du Pacte pour la transition. Allez voir le pacte.ca si vous n'avez pas entendu parler de cette initiative qui jusqu'à maintenant a rallié 280 000 Québécois. Vous pouvez le signer. Ça coûte rien, ça fait pas mal, puis ça démontre un certain engagement pour ce petit bout de planète qu'on occupe. On a Isabelle avec nous. Bonjour Isabelle. Là, on entend vos idées, là. En avez-vous pour essayer de justement faire notre part?
Bien, en fait, moi, c'est pas pour une idée que j'appelle, c'est pour une prise de conscience. C'est que les paquebots sur... j'ai écouté un reportage, puis les paquebots de livraison sur les mers, à lui seul... il consomme pour son voyagement aller-retour pour une équivalence de 5 millions de voitures.
Ouais.
La sorte de gaz qu'ils utilisent. Fait que, tu sais, déjà là, puis il y en a 60 000 par jour sur la mer. C'est des choses qu'on ne voit pas. Les avions, quand il y a eu le 11 septembre, là, quand ils ont arrêté la circulation aérienne, ça a l'air que la qualité de l'air a augmenté très rapidement.
Ouais.
Fait que, tu sais, déjà, ça, c'est deux gros enjeux que je trouve qui seront importants. Je trouve ça super important de faire chacun notre petit bout de chemin, mais il y a un gros problème là aussi, tu sais.
Mais là, et puis c'est un très bon point que vous amenez, mais si on suit votre logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaye de réduire
les
importations, c'est ça que ça veut dire aussi? Ou on change de technologie, effectivement. Je lisais ce matin qu'il y avait un avion là, qui pourrait être beaucoup moins énergivore. Je pense qu'on va aller vers ça, mais là... selon le GIEC, c'est d'ici 2030, 45 % de moins de gaz à effet de serre. Ça veut dire que c'est dans 11 ans. Comment on va arriver à faire tout ça? C'est le temps qui manque, là, Dominique.
Il y a le temps manque, mais je pense
que... Mais c'est un bon
aussi,
point, ce qu'elle dit, Isabelle.
Oui, absolument. C'est que je pense que c'est important d'identifier les sources. Qu'est-ce qui est le plus émetteur? C'est quoi les plus grands problèmes? Sachant bien qu'au cœur de tout ça, généralement, les énergies fossiles sont les grands responsables. Pétrole, gaz au Canada surtout, charbon aussi.
Oui.
Et donc, les solutions, c'est un cocktail. Il n'y aura pas de baguette magique. Il y aura pas, on ne va pas dire la technologie va nous sauver, mais il y a des solutions technologiques qu'il faut mettre en place. Les gestes citoyens, moins consommer ce qui est importé par bateau.
Ouais,
le « made in China », on a beaucoup exporté la production et les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, moi, je me souviens, j'habillais mes garçons dans le Mile End. On fabriquait des jeans. Aujourd'hui, c'est tout était fermé, ça. Tout cette production-là a été transférée vers l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a des gestes individuels de consommation qu'on peut poser, mais en même temps, on ne peut pas, nous, être omniscients puis savoir totalement, complètement où agir. Donc,
et puis,
ça prend des grandes
Amazon,
politiques publiques.
Il faudrait le dire à Amazon.
Absolument.
Aussi.
Alors, on pourrait, tu sais, Amazon, on déciderait collectivement demain matin qu'on ne fait plus affaire avec Amazon.
Qui livre partout.
Ils vont
sa
couler.
Planète, ouais.
Mais il reste que Amazon, c'est une mise en marché, c'est un marketing extrêmement puissant et visiblement, c'est un système qui fonctionne. Alors, à un moment donné, ça prend aussi des États
et qui est en train
pour
de
donner des règles, des lois. Et ça, ces empires-là, là, Amazon, Apple, Google, Facebook et compagnie, là, c'est des immenses pollueurs. Et les États ont très peu d'autorité sur ces entités-là. Alors, il va falloir, à l'heure du réchauffement climatique, refaire confiance à nos démocraties, réinvestir le champ politique et imposer le respect là où il doit être imposé. Donc, oui, les gestes individuels, mais aussi et surtout des grandes politiques publiques à la hauteur de l'urgence.
Mais j'encourage tout le monde à aller lire un peu sur toutes les acquisitions faites dernièrement par Amazon. Dans pas longtemps, il va rester qu'une petite brochette d'entreprise. Dont Amazon, qui va contrôler même ce que vous mangez.
Mm.
Allez voir ça, là, c'est fascinant. Là. On a Louis-Jean qui est avec nous. Bonjour, Louis-Jean.
Bonjour.
Vous en pensez quoi de toute notre discussion et vos solutions à vous, d'un point de vue personnel?
Ben, solution à moi, c'est chaque petit geste compte, comme on dit tout le temps. On parlait de fruits. Vous parliez de fruits au début qui partent verts puis qui arrivent rouges.
Mm.
Juste de prendre conscience que j'ai été étudiant en environnement à l'UQAM comme étudiant en libre, puis je me suis amusé un peu. Juste les oranges. Juste de prendre des oranges, il n'en poussera jamais au Québec, mais entre les oranges de la Floride et les oranges de la Californie, c'est 33 % moins de transport qui est transporté par camion. Là. Mm. C'est 1800 km de différence sur le trajet.
Mm.
Également, je suis content qu'on parle de gaz à effet de serre plutôt que de carbone, parce que le carbone n'est pas l'unique ingrédient. L'effet de serre, c'est une toile.
Ouais.
C'est une toile qui est causée par des gaz, puis il y a plusieurs gaz dedans, il n'y a pas juste des gaz carbonés qui sont là-dedans. Puis la serre, habillez-la comme vous voudrez, si vous ne la chauffez pas, vous n'aurez pas vraiment d'effet de serre. Il y a aussi le chauffage de la serre que le monde oublie. J'ai acheté une maison qui date de 1964, j'ai 4 pouces de laine dans le grenier. On a beau produire de l'énergie verte au Québec, quand le barrage qui empêche l'eau de couler sert à chauffer ma maison, puis que ma maison, la majeure partie du chauffage part puis s'en va chauffer la serre, c'est un autre problème de réchauffement, même si c'est créé par de l'énergie verte. Moi, je dis que le programme Rénovaire devrait devenir permanent au niveau du Québec, parce qu'il a arrêté en début d'année, en plus.
Voyez-vous comment qu'on n'est pas conséquent? T'sais, c'est pareil, là, le 1er juillet, puis je vais vous en reparler parce que j'en reviens tellement pas que je vais tellement en parler. Le 1er juillet, on n'arrête pas de nous dire « Prenez le transport en commun, tout le monde. Hein, quoi, t'as une auto, mon Dieu, bouh! » Le 1er juillet, augmentation du tarif du transport en commun. Bravo, t'as tout compris. Non, mais tu sais, quand tu dis « pas conséquent », là, c'est ça.
Alors, ce que ça prend aussi...
Après ça, on nous dit « Hey, bois pas avec des pailles ».
C'est ça.
Écoute, on voit la paille dans nos affaires à nous, mais on voit pas la poutre dans les affaires des gros lobbies. Exactement. C'est ça le problème. Hey, non, mais le scam de la paille, là, c'est un scam. Sérieusement, Dominique, es-tu d'accord?
Ça détourne le débat. Absolument.
Complètement. Vraiment. Complètement. Là, je nous vois tous être là, dans nos drinks cet été, là, à se demander qu'est-ce qu'on va utiliser, puis on se sent super mal.
C'est ça, la culpabilité.
C'est là le problème. Alors que finalement, le plastique dans les océans, c'est 95% autre chose. Que les petites pailles. Là. Enfin, je m'excite là-dessus. On va aller à la pause. Je reviens avec vos idées pour sauver la planète. C'est pas le fun, on va pas arriver là. On a avec nous, il y a pas mal de monde qui veulent intervenir là-dessus. On a Sophie. Bonjour Sophie, avez-vous des idées?
Oui, ben des idées, effectivement, il y en a plein.
Parce que Dominique l'important... Champagne prend des notes, là.
Oui, l'important, c'est de savoir quoi choisir comme priorité.
Ouais.
Oui, les transports, évidemment, c'est une chose qui est capitale. Mais en parlant de transport, moi, je trouverais ça important de mentionner au niveau de la réduction de sa consommation de produits qui sont effectivement transportés partout à travers le monde, qui sont assez intensifs là en utilisation de pétrole et de fabrication pour ces produits-là, et d'aller des alternatives au niveau des produits qui sont déjà en circulation, donc des produits qui ont été produits usagés de seconde main.
Vous parlez des R, finalement, de le recyclage, la réutilisation et non pas de la production de nouvelles denrées.
Oui, de nouvelles matières. C'est ça, d'aller vers des produits qui sont effectivement là, de seconde main ou bref, de réduire sa demande en produits neufs qui sont transportés partout à travers le monde. Puis on sait que les cargos, tout ça, sont assez aussi intensifs là, en pétrole lourd. Donc, de réduire sa dépendance aussi, je pense, aux produits.
C'est un très bon point que vous amenez, Sophie. Je lisais dernièrement qu'après les transports, c'est, je sais pas si c'est sur le PAC que j'ai lu ça, mais que c'est l'industrie de la mode qui est la plus énergivore, finalement, et polluante. Et c'est vrai que de plus en plus, on suggère aux gens d'acheter des vêtements qui ont déjà été portés. Le vintage revient à la mode. Tu peux aller dans des friperies. Je trouve qu'il y a quelque chose là de concret. Est-ce que vous le faites, Sophie?
Ouais.
Ben moi, je le fais beaucoup, oui. Ça fait depuis quand même au moins 2 ans, là, je dirais, que j'ai commencé à participer à toutes sortes d'activités, de swap, des échanges de vêtements. On apporte des vêtements, puis on a des crédits, fait qu'on peut s'en choisir d'autres. Beaucoup de circuits comme ça dans les boutiques aussi à Montréal. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites là, à ce niveau-là. Là.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Ouais, puis j'en parlais hier, justement. Le problème avec ça aussi, c'est comment, de nos jours, les vêtements sont rendus de mauvaise qualité.
Ouais.
Tu peux même payer cher pour un vêtement, puis il ne durera pas comme ça a déjà été le cas. Mon fils, il avait une montre à casser au bout de 2 mois, puis je dis, c'est drôle, ton oncle qui a 75 ans aujourd'hui, ça fait 60 ans qu'il a la même montre. Je dis, pourquoi tu penses? C'est parce que tu es plus violent que lui au même âge. Il dit non, il dit dans son temps, c'était mieux fait. Mais c'est vrai, c'était ça aussi. Fait que je pense qu'encore là, collectivement, on a une responsabilité d'aller vers des règles qui nous obligent à mieux concevoir les produits. Il y a une poursuite actuellement contre Apple contre l'obsolescence planifiée. Puis ça, je pense que c'est un enjeu dont on parle très peu, mais pour lequel il y a besoin Il y a besoin là, d'initiatives, je pense.
Et là-dessus, je pense qu'il y a des consensus qui commencent à se développer. Dans les propositions du pacte, il y a une proposition sur l'obsolescence programmée. Moi, je relaye dans le site du pacte, en fait, l'idée d'étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke qui ont rédigé un projet de loi.
Ils sont très bons.
C'est extraordinaire. Alors là, on n'attend même plus que le gouvernement le fasse. Il y a du monde dans la vingtaine, des avocats, avocates, qui disent « on va le faire, on va écrire la loi contre l'obsolescence programmée ». Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont avantage à ce qu'on programme l'obsolescence des choses pour faire plus d'argent au bout du compte, mais la grande majorité des gens, on est d'accord avec l'idée qu'il faut imposer des règles à ces compagnies-là. Exactement. Ils vont faire moins de profit. Ça va peut-être créer moins d'emplois de ce bord-là, mais le monde va mieux s'en porter, nous comme citoyens, comme consommateurs, et la planète en général. Donc, il y a une somme de gestes à poser. Ça nous prend un grand maître d'œuvre. Et ça,
ça nous prend des politiques allumées.
Ça prend un gouvernement qui est allumé là-dessus puis qui dit « oui, on va le faire ». Et aujourd'hui, malheureusement, tu sais, souvent je dis, quand Marguerite Blais nous parle des aînés, on a l'impression que les aînés ont une championne par les temps qui courent. Mm. Parler de transition là, au Québec, pour que ça se passe vraiment, ça nous prend un chef d'orchestre qui dit « voilà par où on s'en va ». Et malheureusement, on est encore en train de se faire accroire qu'un gazoduc, ça va nous rendre don riche. C'est don la grosse affaire par les temps qui courent, alors qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui vont améliorer la qualité du monde dans lequel on vit et qui, au bout du compte, vont être beaucoup plus payants qu'un projet de gazoduc qui va continuer de creuser notre tombe et d'aggraver la situation du monde dans lequel on vit.
OK, mais on vote toujours pour les mêmes gouvernements, là.
Bien sûr.
Tu sais, si on était à ce point conscientisé, comment ça se fait que ce sont pas les Verts qui sont au pouvoir? Déjà, tu sais, les dernières élections européennes, on a vu là une montée des Verts, très nouveau, très étonnant, puis c'est en Europe. On aurait pu espérer que ça soit même plus encore que ça. Chez nous, c'est inexistant, là.
Ben, il y a quand même une mouvance. Je pense qu'il y a un éveil de plus en plus important. En même temps,
ouais,
bien sûr, il y a une grande polarisation de notre société. Et moi,
écoute, je voyais l'actualité ce matin là, qui proclame Andrew Scheer comme le prochain premier ministre du Canada, ou à peu près.
Oui.
C'est pas Monsieur Écolo, là.
Non, c'est pas Monsieur Écolo. Et malheureux, j'espère que c'est pas vrai. Là. J'espère que cette vague bleue-là va pas nous ramener vers le conservatisme pétrolier qu'on
a connu. Il va falloir qu'on commence à voter pour quelque chose et non pas contre quelqu'un.
Bien sûr. Mais alors qu'il se lève, celui qui va nous inspirer à ce point tel qu'on va adhérer en disant « voici, c'est ça qu'on veut entendre ». On l'a déjà fait au Québec. Hein. Il y a déjà eu un ministre libéral appelé René Lévesque en 1962 qui a dit « on va procéder au règlement raisonnable d'une situation parfaitement absurde ». On est capable de le faire. C'est un homme, 3-4 fonctionnaires, un grand exercice démocratique. Lévesque est parti partout au Québec expliquer l'idée de la situation hydroélectrique au Québec. Puis on est devenu maître chez nous. On est encore fiers de ça. Et fièrement, François Legault peut courir à New York il y a 2 semaines sur la base de cet héritage-là. Alors, remettons-nous à croire aussi dans notre possibilité d'action collective. Mais pour ça, ça prend un minimum de volonté politique. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait sur le radar.
Oui. On s'arrête, on va à la pause et on revient tout de suite après avec vos commentaires. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour. D'abord, je veux dire merci à Dominique parce que j'aime bien la façon de penser, de faire en sorte qu'on se sente pas coupable. Parce que je le dis tout de suite, j'ai un gros véhicule, j'ai une petite roulotte et je fais 7000 km par année juste pour mes loisirs. Le reste du temps, bon, je suis en vélo, tout ça.
Moi, non, mais voyez, le reste du temps, vous êtes en vélo.
Puis on est tous complices dans le crime.
Tout à fait.
Exactement.
Tout à fait.
Non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime la pensée de Dominique. Ouais. Moi, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est que les petits bonhommes verts à Montréal, ils devraient s'appeler des vrais petits bonhommes verts. Je marche, je suis à vélo et régulièrement, et là, on est l'été, je vois des gens dont la voiture marche. Bon, la semaine passée, là, je suis passée pendant 15 minutes de temps, je tournais dans une rue, j'étais à pied, et il y avait une voiture qui marchait. Sur la même rue, il y avait deux camions de paysagement, les autos étaient en route. Je suis arrêtée dans 2 camions, je suis allée leur parler. Tout ça, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, j'ai appelé le 911, ça a pris une éternité. Tout le monde était parti. Alors, je me suis dit, pourquoi pas qu'il n'y ait pas des petits bonhommes verts et que l'argent récolté, là, on parle de soyons conséquents, que ça serve justement à faire des mesures parce que c'est l'ignorance. Quand le monsieur d'une voiture qui était sorti, il me dit, écoutez, ma voiture, elle bouge pas pendant 5 jours, faut toujours bien que je la décrasse. J'ai dit, monsieur, c'est pas ça. Puis là, il parlait à une fille, donc il s'est dit, pauvre madame, elle connaît rien. Mais j'ai dit, mais voyons donc, partez tranquillement avec votre voiture, elle va se décrasser. Et il n'y avait rien à voir. J'avais l'air vraiment de la nounoune qui connaît rien. Alors, il y a l'ignorance, mais des fois, l'ignorance, ça se traite par la coercition.
Et l'individualisme aussi, ce que vous décrivez,
ben oui.
Là, c'est l'individualisme, là.
Moi, je suis entourée, là, je vous le dis, là, je suis vraiment la voisine fatigante. Je composte, je recycle. Mon sac de vidange, là, c'est gros comme un petit, l'équivalent d'un 4 litres de lait. Sors ça aux deux semaines. Vraiment la folle, malade mentale. Et je regarde mes voisins, ils ont des bacs de vidange à plus finir. Puis je me dis, mais c'est ça aussi, c'est vraiment ces gens-là, là, c'est la coercition. Ça nettoie la rue avec le boyau. Et moi, je me dis, ben pourquoi pas? Un moment donné, là, quand la police verte va agir, les gens ils vont commencer à checker derrière les buissons.
Oui, mais moi, j'aimerais ça que ça vienne de nous-mêmes. Moi, j'ai tendance à dire, je trouve qu'on a assez de tickets comme ça, puis qu'on a assez de monde qui nous empêche de vivre. On peut-tu, comme, y aller de nous-mêmes, là? Moi, j'aime toujours mieux qu'on me demande mon avis, qu'on me force à faire quelque chose. Je fais de même.
Écoute, mais quand tu l'expliques, les gens, ils comprennent pas. Le monsieur, là, que j'ai parlé de sa voiture, là, il m'a vraiment envoyé promener.
Oh, j'en doute pas, j'imagine les mots. Là. Va donc! Là.
Écoute, la jeune fille, une jeune fille qui mangeait, elle attendait, elle dit, ouais, mais moi, j'attends pour avancer, mais j'ai dit, je m'excuse. J'ai dit, ça fait au moins 5 fois que je passe, ça fait minimum 10 minutes que je te vois, t'as pas bougé. Ben, elle était jeune, puis là, je me disais, hey, moi, là, je travaille pour toi, pauvre jeune fille, parce que là, t'as 20, 22, 23 ans, moi, j'en ai presque 60, c'est à toi que ça va rester, là, cette poubelle-là, fait que elle avait pas l'air consciente, fait qu'elle aurait mérité d'avoir une contravention, ouais. Parce que je comprends ce que tu dis, mais c'est pas vrai que les gens sont tous intelligents comme nous autres, puis qu'ils disent, ouais, j'aurais aimé que tu me le dises, j'aurais réfléchi. Il y a des fois, là, il y a un avertissement, ouais. Puis il y a des fois, c'est effectivement la contravention.
Merci beaucoup, Sylvie, merci bien. Olivier, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi, j'aimerais rappeler juste l'idée que l'énergie, là, c'est ultra important dans notre économie. On en est très dépendant. Et on est très dépendant aussi de l'énergie du carbone dans notre transport. Vous l'avez dit tout à l'heure, si on veut vraiment arrêter le réchauffement de la planète, il faut couper de moitié de la production de carbone. Les gens se plaignent beaucoup, le gouvernement n'en fait pas assez. C'est parce que le gouvernement, il a les mains liées. Il faut qu'il fasse un choix. Soit il détruit l'économie, soit il laisse la planète se réchauffer. C'est vraiment pas évident. Mais il y a une solution à ça. En fait, on est capable de recycler le carbone dans l'air et de refaire du pétrole. Là, vous dites, ah, mais on n'arrête pas de consommer le pétrole. Oui, mais on couperait le cycle du carbone. Mm-hmm. Mais pour l'instant, ça coûte trop cher faire ça. C'est trop dispendieux. Il faudrait une source d'énergie peu dispendieuse. Et il y en a une. Ils sont en train de développer. En fait, c'est déjà développé. Ça existe depuis les années 50. C'est la fusion nucléaire au thorium. Oh, les gens ont souvent peur du nucléaire.
Ouais.
Mais cette méthode de faire du nucléaire-là, elle est très sécuritaire. Elle est propre comme le nucléaire peut l'être. Et aussi, sa rentabilité est de l'ordre de potentiellement 200 fois plus que celle qu'on utilise avec l'uranium.
Je comprends. Merci beaucoup, Olivier. On ne rentrera pas trop dans les détails, mais c'est une proposition qui peut être inscrite sur le pacte.ca, c'est ça, Dominique Champagne?
Parce qu'en fait, à toutes les idées, voilà. À toutes les bonnes idées, on rendra public la somme des idées qui nous ont été communiquées, puis on va faire aussi une synthèse de ce qui nous semble être les idées les plus porteuses, les plus inspirantes, pour inspirer notre gouvernement dans son plan d'action et plus largement tout le monde. Il y a des entreprises, il y a des industries, il y a des municipalités, il y a des organismes communautaires, il y a des citoyens, des individus qui veulent poser des gestes. Alors, ça va être un répertoire pour s'inspirer.
Parce qu'en même temps, quand on dit, puis les gens disent beaucoup ça, là, Olivier vient de le dire, le gouvernement a les mains liées, mais le gouvernement, il faut qu'on se rende compte, le gouvernement, là, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, c'est nous, le gouvernement. On ne devrait pas se faire imposer des affaires qui ne nous ressemblent pas.
Absolument.
T'sais, les campagnes, on n'a pas voté pour ça, là, sont réelles.
Moi, je veux rappeler au premier ministre Legault, là, qui est très sensible au projet de gazoduc, que ce genre de projet-là, mortifère au Québec, l'intelligence collective des citoyens, on les a tous arrêtés depuis 10-12 ans. Okay, l'invasion du gaz de schiste, ouais. Le projet de port méthanier Rabaska à Lévis, le projet de port méthanier à Kakuna, Anticosti, Énergie Est, à part l'inversion du pipeline Enbridge, là, on les a tous arrêtés. Et j'annonce aujourd'hui que le projet de GNL, si mirobolant soit-il, si puissant soit-il, on va aussi l'arrêter parce que c'est pas une bonne idée. Le gros bon sens exige, la science nous dit, on va laisser dans le sous-sol de 80 à 80 des ressources connues en pétrole et en gaz. Alors, le gazoduc, il fait partie de ce gaz-là. Faut pas oublier là, que c'est du gaz de schiste qu'on va liquéfier, qu'on va transporter dans le tuyau en très grande majorité, ou du gaz non conventionnel qui a une forte émission. Alors, il y a des choses qu'il faut encourager, il y a des solutions qui sont porteuses, puis il y a des choses qu'il faut refuser.
Merci beaucoup, Dominique Champagne. Plaisir. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Trudel. Plaisir. On va poursuivre la conversation, bien sûr, là-dessus. Entre autres, après les nouvelles, puisqu'on va parler d'hypersensibilité à notre environnement, c'est très connexe avec le sujet dont on vient de parler. À tout de suite, tout le monde. Restez là.